Les colloques du Collège de France.
Bien, nous allons reprendre et poursuivre d'une certaine façon cette question des savoirs autochtones avec les natures autochtones. Cette fois-ci, donc je ne me suis pas présentée, c'est vrai que... C'est vrai qu'on a eu les trois. Donc Marie Thébeau-Zorgueur, on va dire historienne culturelle et technique, 18e siècle, directrice du Centre Alexandre Coiré. Donc je suis très heureuse que vous m'aviez invitée à présider cette session, cette dernière session de l'après-midi, qui s'annonce absolument passionnante, même si je ne suis pas spécialiste, mais peut-être des savoirs autochtones, si on considère que peut-être les artisans ou certains praticiens sont des autochtones, à voir, et où précisément nous allons un peu déplacer les thématiques peut-être de l'acclimatation, du transport, de la circulation, de l'extraction, pour revenir peut-être dans des terrains décentrés, à travers ces deux communications. Donc nous allons commencer par l'introduction, par la communication de Grégory Quenet. Grégory est professeur des universités à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, mais il est bien d'autres choses encore. L'un des pionniers aussi de l'histoire environnementale en France depuis ses premiers travaux sur les tremblements de terre, il y a bien longtemps, et aujourd'hui membre senior de l'Institut universitaire de France, où justement tu as un programme précisément sur les histoires environnementales et interconnectées, que je ne me trompe pas, voilà, sur l'histoire de l'adaptation aux changements environnementaux et climatiques en France et dans ses colonies, 1750-1860, parce que tu élargis aussi tes horizons, et tu es également co-directeur du département Humanité environnementale au Collège des Bernardins. Donc cette question des humanités environnementales, c'est aussi un nouveau champ de recherche dans lequel va s'inscrire aussi cette question qu'on va construire ou déconstruire des natures autochtones, et qui va te permettre, avec la communication aujourd'hui sur connecter ou déplier les archives de l'autochtonie dans l'océan Indien, de revenir sur un terrain que tu explores depuis une dizaine d'années maintenant, autour des Seychelles, d'une histoire environnementale et interconnectée des Seychelles. Voilà, donc je te laisse la parole.
Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier les organisateurs de cette invitation pour ce colloque qui est déjà passionnant depuis ce matin. Je voudrais d'entrée préciser que je vais aborder la question de manière un peu particulière, dans la mesure où je ne traiterai pas que du XVIIIe siècle, mais plutôt ce que je ferai, c'est que je poserai les questions des Lumières à l'écriture de l'histoire aujourd'hui, à travers les savoirs qui sont mobilisés pour écrire cette histoire. Autrement dit, c'est aussi une réflexion sur la contemporanéité des Lumières à travers ces multiples allers-retours. Ces multiples allers-retours, je vous propose de les faire à partir d'un terrain. À partir d'un terrain qui est le sud-ouest de l'océan Indien. En réalité, bien entendu, il ne s'agit pas que du sud-ouest de l'océan Indien, puisque cette partie que vous avez sous les yeux est connectée aux autres ensembles de l'océan Indien, ainsi qu'à d'autres océans, comme vous le verrez. Néanmoins, les recherches empiriques que je mène se déploient dans cette zone-là pour une raison particulière, c'est que vous voyez que cette concentration d'îles et d'archipels fait que c'est un endroit de l'océan Indien où se joue particulièrement la relation entre différenciation et circulation, qui est quelque chose que j'essaye de saisir. Et d'autre part, il y a dans cette partie-là une autre dimension particulière, c'est qu'un certain nombre de ces îles sont restées inhabitées jusqu'à une date récente. Les Seychelles, Maurice, La Réunion, etc. étaient des îles inhabitées avant l'arrivée des Européens, à la différence des Comores ou de Madagascar, qui avaient une histoire beaucoup plus ancienne. Et donc, bien entendu, c'est quelque chose qui met tout de suite à l'épreuve cette catégorie d'autochtonie, puisqu'on a une autochtonie sans autochtone d'une certaine manière, et donc quelque chose à déployer. En introduction, toujours, il est important de dire que c'est une manière de rouvrir un dossier historiographique qui a joué un rôle dans cette historiographie des Lumières, qui est le dossier histoire environnementale, histoire globale, car le rapport entre histoire environnementale et histoire globale s'est joué ici, s'est installé ici, dans l'océan Indien, en particulier avec les travaux de Richard Grove, son fameux chapitre de Green Imperialism consacré à Pierre Poivre, montrant comment la science européenne avait projeté des savoirs à travers la haute administration, des savoirs sur ces îles, pour saisir une réalité physique nouvelle et mettre en place des politiques marquant une rupture dans l'histoire des sciences et des pratiques coloniales. Autrement dit, c'est le laboratoire colonial que je viens d'exprimer aussi à travers la tension entre ces différentes dimensions qui apparaissent clairement dans la formulation même dans cette formulation. Enfin, ce que je vous présente, c'est un chantier de recherche que je développe en étroite collaboration avec des collègues sédimentologues et paléogénomiciens, écologues, géochimistes. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une écriture commune. Et ce que je vais vous présenter, c'est plutôt la façon dont j'essaye d'installer l'interface entre l'histoire environnementale et ces sciences de la nature, des sciences de la nature qui ont un long historique de recherche, en particulier à La Réunion, comme vous le verrez, moins dans d'autres îles. Or, cette interface, elle pose des questions de sources, de méthodes et de résultats que je voudrais expliquer. Et je vous propose de construire mon intervention à partir d'un dialogue à travers trois types d'archives. Ceci est une carotte, ceci est une lave du XVIIIe siècle, ceci est une archive seychelloise de 1977. Commençons dans un premier temps à présenter chacune des archives et les questions de méthode qu'elles soulèvent. La carotte. La carotte, c'est un enregistrement sédimentaire qui a été réalisé dans le lac de Sillaos, que vous voyez sur ces photographies, un lac de Sillaos à La Réunion, dans un contexte urbain dense, entre 1 et 2 mètres de profondeur, 200 à 300 mètres de dimension. Et cette carotte qu'ont réalisé ses collègues, à partir d'un tube qu'ils enfoncent dans les sédiments, saisit une période de temps qui est environ 3000 ans. Cette carotte, nous l'avons réalisée pour ainsi dire ensemble, puisqu'il se trouve que j'ai financé ces travaux en collaboration. Et d'ailleurs, vous voyez la petite mention en dessous. En fait, j'aurais pu financer ceci avec mes financements de l'IUF, mais j'ai trouvé beaucoup plus amusant de passer par les Bernardins et que l'archevêque de Paris finance des carottes de sédiments dans l'océan Indien pour faire de la paléogénomique, renvoyant à la longue histoire de relations entre la science et l'Église. Passons. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce que vous avez sous les yeux nécessite des opérations complexes. Et en fait, c'est une première. C'est une première mondiale parce que jusqu'à maintenant, n'avait jamais été réalisé de la paléogénomique en contexte tropical. Le contexte tropical étant censé dégrader l'ADN environnemental qui, de ce fait, se trouve inutilisable. L'équipe avec qui je travaille à Chambéry a été pionnière dans la mise en place de l'ADN environnemental, quelque chose qui existe depuis une quinzaine d'années, pas plus, mais qui s'est surtout perfectionné ces dernières années, et qui consiste à partir d'un carottage, avoir finalement l'ensemble des produits de l'érosion qui se déposent strate par strate dans un lac, et de ce fait de pouvoir analyser l'ADN de tous les êtres vivants, plantes et animaux, qui ont vécu là sur des milliers d'années. Autrement dit, par rapport à la palynologie qui ne saisit que les plantes à pollen, vous avez une expansion absolument extraordinaire. Alors ces collègues, vous voyez, ce sont dans la tradition des sciences du XVIIIe siècle, ce sont des bricoleurs, ils construisent des petits bateaux, ils construisent des appareils qu'ils soudent eux-mêmes, ils ont pour les Seychelles, ils ont inventé un petit bateau pneumatique qui tient dans des bagages d'avion et que l'on pourra emporter avec nous. Ils font des opérations hétérogènes, puisqu'en réalité, pour faire 7 carottes, il a fallu assembler 3 carottes différentes, il a fallu la calibrer. Et c'est là que la collaboration avec les historiens est nécessaire, parce que sans les historiens, il est très difficile de caler cette chronologie, et ceci a été le début de notre collaboration. Deuxième chose, cette coulée de lave du XVIIIe siècle. Cette coulée de lave du XVIIIe siècle, elle se situe dans la partie sud de la Réunion, dans la partie qui est à côté des Grands Brûlés, c'est le Tremblay exactement. Et là, c'est une autre méthode avec un autre collègue écologue, où en fait les écologues utilisent les laves comme, disent-ils, des machines à remonter le temps. Je m'explique. lorsqu'il y a une coulée de lave, en quelque sorte, eh bien, l'histoire de la végétation repart complètement à zéro, et donc on peut suivre son développement et leurs relations fonctionnelles. Vous voyez la partie en lave et la partie où les arbres ont regagné le terrain. Autrement dit, vous avez une sorte de laboratoire, de machine à remonter le temps, qui permet de repérer des éléments qui ont disparu par rapport à des périodes historiques où on observe un autre type de repeuplement des végétaux. Et donc, c'est un outil extraordinaire pour analyser historiquement les relations entre faune, végétation, et c'est ce que je vais vous développer. Enfin, troisième chose, une archive seychelloise de 1977. Alors, par rapport à ce que je vous ai présenté, la vie d'historien dans les archives peut paraître bien terne, elle ne l'est pas toujours, puisqu'il se trouve que je dois être la seule personne qui, ces 10 dernières années, ait travaillé aux archives nationales de la Réunion, des Seychelles, qui sont fermées à cause d'une infection bactérienne d'origine inconnue, qui cause des démangeaisons internes, invisibles à l'œil nu. Et pourquoi j'ai pu y travailler alors que les archives nationales étaient fermées, ce serait une longue histoire, mais ce n'est pas le sujet ici. Pourquoi avoir fait tant de kilomètres et tant de difficultés pour finalement analyser des fonds qui sont des fonds photocopiés donnés par l'Orstom, vous avez le tampon, avec les compliments de l'Orstom, en 1977, après l'indépendance des Seychelles qui a lieu en 1976. Eh bien, ce contexte-ci a été crucial pour percevoir ces archives dans leur contexte, c'est-à-dire que sans ceci, je n'aurais pas découvert que cet édit de 1787 est appelé sur place la Constitution de la Nature, à cause d'une loi protégeant de manière extrêmement forte, à la manière de Pierre Poivre, qui était d'ailleurs, qui était commissaire intendant des Seychelles aussi, même s'il n'y est jamais allé, protégeant de manière très forte le bois, obligeant à reboiser, limitant la taille des propriétés, etc. Mais à la différence de ce qu'on trouve à Maurice, eh bien, cet édit 1787 contient une partie sur les tortues, qui représente la moitié du texte et qui est extrêmement forte. Interdiction de les ramasser selon certaines conditions, création de parcs à tortues, condamnation très lourde, y compris arrestation du capitaine du navire qui ne respecterait pas ses instructions. Seulement 17 ans après l'installation des Français sur l'île, la tortue est déjà menacée et de fait, elle a disparu de la Réunion depuis les années 1730. Et donc ce sont ces allers-retours qui sont importants parce qu'en réalité, il a fallu que je passe par les archives anglaises qui sont à Kew Gardens pour comprendre comment, dans le contexte de l'indépendance, eh bien, le président élu après un coup d'État avait construit l'image, avait inventé l'idée d'un... d'une écologie créole héritée des Français pour s'opposer à la façon dont les Anglais, dans le cas du processus d'indépendance, avaient mis sous cloche toutes les parties les plus remarquables de la nature seychelloise en les confiant à des fondations internationales de droit anglais, de telle sorte que les Seychellois ne puissent plus avoir accès à ce que, disait-il, dans ce tract du Parti de libération seychellois, était leur pain, alors que le tourisme n'est que le beurre sur ce pain. Donc, vous voyez, vous avez ces trois archives, et ce que je vous propose maintenant, c'est non pas de les additionner, mais de les faire se toucher. De les faire se toucher, pourquoi ? Parce que la carotte historique enregistre des phénomènes historiques qu'elle ne peut expliquer. La lave révèle des fonctionnalités écologiques sans savoir comment elles sont perçues, comprises et manipulées. Enfin, l'archive de l'historien documente des politiques environnementales sans pouvoir les rattacher à un état antérieur et postérieur de l'environnement. Et donc, je vous propose d'interroger cette contiguïté à travers un dialogue critique avec l'histoire environnementale globale, ce qui est mon deuxième point. Puisque, en fait, mis ensemble, ces trois types d'archives recomposent plusieurs acquis de l'histoire environnementale globale, pour ne pas dire le remettre en question, sur 9 points. Le premier point, c'est que ceci relativise le primat qui a été accordé à la circulation et acclimatation des espèces dans la compréhension de l'histoire environnementale des îles. En réalité, les écologues ont montré ces dernières années qu'il y a eu un épisode plus important qui est la disparition des gros frugivores. La disparition des gros frugivores, vous êtes dans un contexte de ces îles tropicales où en fait la clé de la fonctionnalité des écosystèmes, ce sont les gros frugivores qui dispersent les graines et qui permettent à ces arbres de bouger et de se reproduire. Prenons un exemple très simple. Les fruits du grand natte. Le grand nat est un arbre endémique de La Réunion. Ses fruits pèsent entre 80 et 100 grammes. Aujourd'hui, le plus gros frugivore de l'île pèse 55 grammes. Et donc, évidemment, ce n'est pas lui qui peut disperser ses graines. Ce qui veut dire que ces forêts ne sont plus fonctionnellement, les morceaux de forêts natives qu'il reste, ne sont plus fonctionnellement fonctionnels, depuis le début du XIXe siècle ou même la fin du XVIIIe siècle. Que sont ces frugivores qui ont disparu et qui étaient la clé? Les tortues géantes de 100 à 150 kilos, les chauves-souris qui pesaient dans les 500 grammes, les espèces de perroquets, 4 espèces de perroquets endémiques à La Réunion, et bien évidemment le fameux dodo, mais qui n'était qu'un exemple de cela. Autrement dit, les animaux et les plantes introduits et acclimatés n'ont pas vaincu une végétation native. Ils sont en réalité installés sur un vide fonctionnel qu'ils ont occupé. Et il existe dans cette histoire un trou, c'est-à-dire cet inconnu, qui est la période de 60-80 ans qui suit la première installation. Deuxième élément, eh bien, ceci permet de redéfinir la chronologie des connexions. La chronologie des connexions, la première rencontre dans ces îles n'avait pas été une rencontre entre un Européen et des plantes et des animaux endémiques. La première rencontre, ça a été une rencontre entre un rat et des plantes et des animaux endémiques. Vous avez les dates d'installation dessous. Au-dessus, vous avez ces documents qui montrent comment on peut croiser l'archéologie et l'ADN, cette fois-ci l'ADN ancien et pas l'ADN environnemental, avec ces haplotypes qui vous reconstituent les filiations entre les différents rats. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu, à des dates qui donnent des traces d'ADN ou des traces archéologiques, des rats qui ont été débarqués sans qu'il y ait installation humaine, ce qui contribue à modifier profondément. Et d'ailleurs, ces rats eux-mêmes ont été modifiés, puisque dans le temps, on voit se succéder le Rattus rattus, le Rattus norvegicus et le Rattus exulens, trois espèces de rats qui ont les mêmes effets sur les écosystèmes, mais qui renvoient à des circulations différentes, cette fois-ci d'êtres humains. Et donc, finalement, ça veut dire qu'il y a un problème. Deuxième difficulté, c'est qu'on se rend compte que les circulations des éléments, disons, des entités non humaines, ne correspondent pas exactement aux circulations des êtres humains. Troisième chose, l'ADN ancien permet de réévaluer la compréhension de la circulation des espèces parce qu'elle a fait tomber ces dernières années la distinction entre le sauvage et le domestique. La littérature parle ces dernières années d'ailleurs de semi-domestique. Les plus beaux exemples que l'on connaisse dans la littérature sont surtout consacrés à l'Amérique du Sud et à l'Asie. Je pense à la façon dont la compréhension de la génétique de la tomate a été complètement bouleversée ces dernières années. Pour l'océan Indien, on a moins d'exemples, mais néanmoins, il y en a. Si vous regardez cette peinture de Maynard North, qui est le premier peintre à aller aux Seychelles, elle peint dans les années 1880 ces peintures qui sont conservées dans une salle spéciale à Kew Gardens. En fait, elle peint que des plantes invasives et des fruits invasifs et exotiques, donc quasiment aucun n'est endémique, et dont on peut faire effectivement la génétique. Je pense en particulier à l'Ipomoea, qui est mentionnée ici, et dont on sait aujourd'hui que les propriétés, qui est la capacité de stockage des racines, que l'on pensait longtemps un effet de la domestication, est pour partie quelque chose qui précède l'histoire humaine et qui en même temps a été faite par de multiples sauts, sans qu'il y ait finalement cette histoire avec deux termes qu'on a pris l'habitude d'écrire, une histoire native dans les écosystèmes et une histoire européenne qui est modifiée. En réalité, en termes d'évolution des plantes, c'est quelque chose qui est totalement faux. Quatrième élément, je crois, les historiens se sont concentrés sur des faits d'occupation destructive liés à l'occupation de la nature, qui existe. Vous avez ces cartes qui essaient de reconstituer l'évolution de la végétation, par exemple pour La Réunion. Vous voyez la transformation des zones de répartition des frugivores, des arbres à gros fruits, par exemple. Vous avez un effet, vous avez ces effets-là. Mais en réalité, ce qui est plus important, plutôt que de se concentrer sur des espèces emblématiques, comme l'ont fait les historiens, c'est en réalité d'étudier les relations fonctionnelles. La tortue est un frugivore. La tortue va du littoral jusqu'au pied des montagnes, elle monte très haut, elle disperse les graines et elle est avec un certain nombre d'autres animaux, elle joue ce rôle. Ce qui veut dire que, par exemple, utiliser historiquement le pourcentage de déforestation comme un indice de la dégradation environnementale est écologiquement trompeur. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un paradoxe si on compare l'île Maurice et la Réunion. La Réunion a conservé des parties de forêts primaires qui n'existent pas à l'île Maurice, mais en revanche, la Réunion a perdu beaucoup plus la plus grande partie de ses espèces endémiques, dont certaines, notamment oiseaux, existent à l'île Maurice, parce qu'il y a une fonctionnalité écologique qui est restée plus forte, dans la mesure où le gradient topographique n'est pas le même et il n'y a pas eu cette rupture qui est la destruction des forêts de plaine. Et donc ça amène à interroger autrement la notion de dégradation environnementale et la façon dont on l'utilise de manière normative. Autre modification, eh bien cela conduit à repeupler l'histoire environnementale qui apparaît au fond assez dépeuplée. Je fais une critique pour ma propre chapelle, mais ce qui n'est pas gênant, puisque dès son origine, l'histoire environnementale s'est fixée comme objectif d'écrire de meilleures histoires qui soient capables d'attraper des êtres qu'elle avait négligés, et donc dire aujourd'hui qu'elle néglige encore de multiples êtres, eh bien c'est tout à fait cohérent avec son projet fondateur. L'histoire environnementale manque d'insectes, elle manque d'oiseaux, mais elle manque aussi d'érosion, de volcanisme, de vent, de précipitation. Une des clés de la compréhension du sud-ouest de l'océan Indien, c'est cette histoire très longue que vous avez sous les yeux, qui est une histoire qui est sur 40 à 50 millions d'années. Autrement dit, lorsque l'on a complexifié la carte de la circulation européenne à travers l'océan Indien, en lui adjoignant une deuxième carte qui est celle des circulations préexistantes, on a fait un pas très important, mais il faudrait ajouter une troisième carte, celle qui est à droite. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. Une des clés de la compréhension des écosystèmes de l'océan Indien, c'est la différence entre îles continentales et îles volcaniques. Les îles continentales, les Seychelles en particulier, Madagascar, sont des éléments qui se sont détachés du continent primitif qui est la Gondwana et donc se sont arrachés de l'Afrique avec les écosystèmes qui étaient là. C'est la raison pour laquelle, aux Seychelles, on trouve des crocodiles, ce qui posera de grandes difficultés aux premières installations humaines. En revanche, les îles volcaniques sont des éléments qui sont sortis, pour ainsi dire, du fond des océans, sur lesquels sont fixés des organismes qui ont permis de développer ces îles-là, et c'est donc une végétation qui repart de zéro. Or, il y a une très grande différence par rapport aux circulations, la circulation humaine. La circulation humaine, elle arrive, dans cette partie de l'océan Indien, eh bien, elle arrive par l'ouest, par l'Afrique, par des seaux, en faisant le tour de la circumnavigation de l'océan Indien grâce au vent de mousson. Or, toute l'histoire écologique des îles volcaniques arrive de l'Est. Elle arrive de l'Est parce que les courants et les vents font que très peu est venu de la partie africaine. Prenons un des exemples les plus impressionnants pour ceci, un oiseau endémique de La Réunion, un oiseau endémique de La Réunion et de Maurice, qui est ici en photo, qui s'appelle le pétrel de Barreau. Eh bien, le pétrel de Barreau, c'est un oiseau dont l'histoire, en réalité, est reliée à celle d'Hawaï, c'est-à-dire que, eh bien, on le retrouve, l'élément dont il est le plus proche, c'est un autre pétrel qui se trouve à Hawaï, et il se trouve que ça permet d'expliquer le mystère du tamarin des eaux, l'Acacia heterophylla, dont le plus proche parent se trouve être à Hawaï, le Koa-a-Koa, à 17 000 km de là. Ce qui veut dire que cet arbre, le tamarin des eaux, est arrivé avec des graines qui étaient dans le plumage d'un pétrel de Barreau. Pétrel de Barreau lui-même, qui est une clé de fonctionnement des écosystèmes, parce qu'il est assez grand pour pouvoir passer d'une montagne, d'une vallée à une autre, et donc permettre une dispersion des graines que ne permet pas, par exemple, le bulbule, qui est un oiseau qui fait 50 grammes. Autre élément, c'est que ceci permet aussi de rebattre la compréhension des faits historiques eux-mêmes. Prenons quelque chose très simple qui est un ouragan. voilà un fait historique, un ouragan. On peut faire une histoire des ouragans et des cyclones en discutant de la façon dont on utilise les sources et dont les sources construisent socialement la réalité différemment. Je vous renvoie à cette belle discussion entre, comment dire, Emmanuel Garnier et Alessandro Stanziani. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas réifié et isolé? Peut-on faire une histoire des cyclones et des ouragans sans relier ceci à l'érosion, sans relier ceci au glissement de terrain, c'est-à-dire des physicalités qui sont complexes, puisqu'il y a simplement 2 ans, par exemple, des collègues ont réussi à montrer que l'érosion et les glissements de terrain étaient plus fréquents sur la zone qui n'est pas exposée au vent que l'inverse, parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité de précipitations reçues, mais ce sont les variations. Et les variations de précipitations reçues sont plus importantes sur la zone qui n'est pas exposée. On peut aussi, autre élément pour complexifier, eh bien, c'est une façon de redéfinir ce qui est natif ou invasif. La fameuse autochtonie. Prenons l'exemple de l'histoire des tortues. Il y a simplement quelques années, 3-4 ans, un article a montré que, contrairement à tout ce qu'on pensait, la tortue de La Réunion, celle qui disparaît dans les années 1730, est une tortue endémique de La Réunion, puisqu'en fait, il y a 25 millions d'années, elle s'est séparée des autres arbres qui sont ici, qui étaient d'autres types de tortues, et elle a développé une tortue particulière, qui était une tortue casquée. Ce qui a des conséquences pour l'historien et ses catégories. Parce que l'historien, est-ce qu'il doit utiliser des catégories comme plantes invasives? Pourtant, d'ailleurs, on ne dit pas des humains invasifs, ou non, sauf dans certains contextes, ce qui soulève des questions. On peut s'interroger sur l'édit de 1787 aussi, quand l'édit de 1787 a comme catégorie la viande de tortue. Qu'est-ce qu'une viande de tortue par rapport à la tortue? Et enfin, ça veut dire tout simplement que cette tortue qui disparaît à La Réunion dans les années 1730, c'est d'un geste 25 millions d'années d'évolution qui disparaissent de manière irrémédiable. Enfin, autre élément, eh bien, que l'on peut mettre en place, c'est qu'on peut, autre élément de, qui amène à questionner l'histoire environnementale globale, c'est que ceci oblige à réinterpréter à nouveau frais la question de la responsabilité historique. La question de la responsabilité historique, vous avez sous les yeux le tableau fait par les collègues Tchèque et Hume sur l'ensemble des espèces endémiques Réunion-Maurice-Rodrigue. Il n'y a pas les Seychelles parce qu'en fait, les Seychelles n'ont pas du tout bénéficié du même travail, du même investissement des écologues. Voyez l'ensemble des espèces qui sont éteintes. Il faudrait notamment les chauves-souris disparaissent très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, une grande partie des oiseaux, etc. Or, c'est une histoire qui complexifie la responsabilité historique. Pourquoi? Parce que si on fait l'histoire de la déforestation, c'est évidemment l'histoire des grandes plantations sucrières, l'histoire du capitalisme, mais si on fait l'histoire de la disparition des frugivores, eh bien, il se trouve que tout le monde y participe. Colons, esclaves, petits blancs, esclaves marrons, parce que notamment le pétrel de Barreau que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, il est exterminé parce qu'on le fait mariner comme des anchois que tout le monde mange. Et ce que cette gravure qui vous représente des Hollandais en train de tuer à coups de bâton des perroquets est quelque chose de largement pratiqué. Eh bien évidemment, cette question, il faut pouvoir la soulever avec beaucoup de rigueur parce que c'est une question sensible à un moment où certaines catégories militantes, comme celle par exemple d'environnementalisme créole, laissent à croire qu'il y aurait des savoirs locaux et autochtones, d'habitants qui ne sont d'ailleurs pas des natifs, qui auraient développé une forme d'harmonie et de respect de la nature, la comprenant et la respectant. C'est une histoire là aussi plus complexe. Enfin, un dernier élément qui est recomposé, c'est que ça permettrait de documenter plus précisément les controverses historiographiques sur les impacts environnementaux. Je renvoie à ce débat que j'ai depuis des années avec Jean-Baptiste Fressoz autour de Pierre Poivre, puisque pour Pierre Poivre, on peut dire tour à tour que ce sont simplement un agenda politique et diplomatique et militaire ce qui est tout à fait vrai, qui invente une sorte de mythe de l'érosion, la déforestation, ce qui serait dit à toute époque pour mieux justifier des politiques coloniales, comme on peut essayer de s'interroger sur la façon dont Pierre Poivre a documenté, observé des transformations de l'écosystème produites par des grands propriétaires qu'il est le premier à critiquer, tout en étant lui-même un grand propriétaire. Eh bien, les carottes que je vous montrais tout à l'heure, elles documentent, on pourra quantifier l'intensité de l'érosion. Ce qui veut dire qu'il faudra à partir de là, eh bien, l'expliquer. Autrement dit, je conclurai cette deuxième partie, vous verrez la troisième sera beaucoup plus brève, en disant que ces 9 déplacements rebattent les cartes des individualités historiques. Et c'est ce que j'aimerais maintenant poser dans une troisième partie très rapide, c'est en disant, de certaine manière, eh bien, comment élaborer un cadre d'analyse qui fasse tenir ensemble toutes ces archives et ces différentes manières de procéder. En apportant une petite précision, peut-être avez-vous eu l'impression, dans ce que je viens de dire, que je ne faisais rien d'autre que de résumer une bibliographie scientifique abondante. En réalité, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai importé dans ma discipline, puisque tout ce que je vous ai dit à partir de ces archives, à partir de ces articles scientifiques, si vous les lisez directement, vous verrez que vous n'en retrouverez rien, puisqu'ils en tirent des conclusions tout à fait différentes, leurs questions n'étant pas les mêmes. Alors, comment élaborer un cadre d'analyse qui fasse tenir ensemble ces archives ? Dipesh Chakraparti et Bruno Latour ont fait une distinction importante, qui est la distinction entre la planète et le globe. Je n'y reviens pas. Hein. Sujit Sivasundaram, que vous entendrez demain, a écrit un article important qui revient aussi sur cette question-là. Autrement dit, cette figure qui était celle de l'histoire orientale globale, qui est le globe, les interconnexions, est distincte de la Terre, qui est la Terre habitable, la Terre habitée, et l'ensemble des éléments qui fournissent les conditions d'habitabilité de la Terre. Chakraparti et Latour fournissent 2 réponses différentes, assez peu réjouissantes pour l'écriture de l'histoire. Chakraparti, c'est une histoire négative aux limites de la compréhension historique, même s'il a essayé depuis d'apporter des éléments qui permettent d'en sortir, notamment en zoomant et dézoomant. De l'autre côté, Bruno Latour, pour Latour, Gaïa, ce sont des puissance d'historicisation qui échappe au récit historique, et pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec lui, il voyait l'histoire comme nécessairement vectorisée et donc incapable d'écrire une histoire terrestre. Eh bien, je voudrais vous proposer néanmoins de tenter, et c'est ce chantier de recherche. Pour tenter, cependant, je ne le ferai pas à la manière dont Cyprien Broodbank le fait pour la Méditerranée. Je ne partirai pas d'un plan qui errait il y a quelques millions d'années, puis il y a quelques centaines de milliers d'années, etc. Puisque bien évidemment, si on fait ceci, on perd en compréhension des sociétés historiques, de leur devenir, de leur dynamique et de leurs contradictions. Je vous propose tout à fait autre chose que j'appelle une histoire environnementale planétaire à échelle réduite. Une histoire environnementale planétaire à échelle réduite, pour comprendre ce que c'est, partons de cette petite image que vous avez sous les yeux, énigmatique, c'est un rectangle. C'est un rectangle de 7 cm sur 3, utilisé par un collègue pour faire de la paléogénomique, de l'ADN ancien, et dans la grotte de Denisova. Et voyez le tableau qui est autour. Dans ce rectangle de 7 cm sur 3, il y a exactement, de mémoire, 630 espèces différentes d'animaux et de plantes qui sont passées dans cette grotte. Alors, le collègue, fait ça d'une manière qui n'est pas celle de l'historien, il les utilise, il les déplie pour mieux les répartir sur une échelle chronologique, puisque ces êtres-là n'ont pas vécu en même temps. Je vous propose de faire autre chose, c'est-à-dire que l'hypothèse, c'est de dire, au lieu de connecter, faisons une science planétaire très locale, où on prend un point très local, une carotte, une archive, et on la déplie, et pour étudier comment ces éléments se touchent, en évitant de les répartir sur une frise chronologique fixée. C'est en fait un des grands apports de ce qu'on appelle la zone critique. La zone critique qui est la science de la fine pellicule où se concentrent les conditions d'habitabilité de la Terre, quelques centaines de mètres dans les sols, quelques centaines de mètres dans les airs. C'est une science éminemment locale qui jusqu'à maintenant n'a jamais intégré d'historien. Et donc, le projet de recherche, que du coup je ne développerai pas puisque vous entendez que je suis arrivé à la limite de mon temps, ça consiste à suivre cette intuition, et je prendrai juste un exemple. Je reprendrai un exemple de ma tortue, sur lequel j'ai réfléchi récemment avec un de mes doctorants, Quentin Paridimal, qui devait rédiger un article sur la tortue de la Réunion. Au fur et à mesure de son discussion, il est apparu que la tortue de la Réunion, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est en fait pas une tortue des Mascareignes? C'est en fait une tortue des Mascareignes qui s'éteint à La Réunion, où elle est devenue une tortue endémique de La Réunion, soutenant la fonctionnalité des écosystèmes, en dispersant les graines grâce à sa circulation, depuis le littoral jusqu'au flanc de montagne, avec une répartition non homogène sur l'île, qui participe de la différenciation des écosystèmes. Ce qui change la signification historique de son extermination causée par les hommes, impliquant tous les groupes sociaux qui habitent l'île au XVIIIe siècle, et qui, d'un seul coup, fait se croiser 25 millions d'années d'évolution avec quelques années d'occupation humaine. Autrement dit, c'est une manière de rouvrir le procès de l'individuation historique à travers le jeu des ressemblances et des différences, ce qui est au fond ce que nous faisons comme historiens. Alors en conclusion, je dirais la chose suivante. Première chose, vous pourriez me dire, comme me l'avait dit un collègue dans une maison juste à côté d'ici, mais il est vrai que je n'avais présenté que la paléogénomique, il m'avait dit « mais qu'est-ce que cela apporte à l'histoire ?» Alors, comme il a posé trois fois la question, je suppose que je n'ai pas dû être très convaincant. Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Eh bien, je pense que ça enrichit la compréhension des clés de la différenciation, qui est indissociablement humaine et non humaine. Cela permet de déconstruire nos catégories, puisque vous voyez ce qui est le titre de cette communication sur la catégorie d'autochtonie, eh bien, elle prend un sens nouveau. L'autochtonie, qui est étymologiquement en grec ce qui est sorti du sol, n'est plus pour nous la même chose. N'avons plus le cadre, comment dire, des Grecs anciens, et l'autochtonie, ce serait la façon dont on se donne à soi-même un sol, et ce qui reviendrait à s'interroger sur les opérations historiques que l'on mène à travers ceci. L'endémisme qui n'est pas l'autochtonie, c'est l'endémisme, c'est comment on fait peuple sur un sol. Pour les écologues, c'est facile, c'est une espèce. Eh bien, pour les êtres humains, comment fait-on société sur un sol à partir d'une situation où on s'est donné le sol à soi-même par une série, comment dire, d'opérations historiques. Et bien entendu, par rapport à cela, la catégorie de natif, je propose plutôt de la mettre à distance parce qu'elle est éminemment complexe. En tout cas, pour les écologues, il n'y a pas de premiers habitants, ou sinon, en tout cas, sûrement pas des êtres humains. Et donc, cette histoire, vous voyez, c'est une histoire, c'est, je pense que c'est une manière, en faisant ce croisement, eh bien, de s'interroger sur les savoirs sur lesquels on s'appuie pour écrire l'histoire. Et ceci ne se comprend que par rapport à une histoire longue de l'organisation des savoirs qui se noue au XVIIIe siècle dans le rapport entre histoire naturelle, sciences physiques et mathématiques. Toutes les recherches dont je vous ai parlé sont empiriquement pour une grande partie à effectuer, puisque pour l'instant, seule La Réunion est fortement documentée. Et ce qui permet de revenir, et vraiment je m'arrêterai là, sur la façon dont on peut comprendre l'Anthropocène dans nos disciplines. L'Anthropocène est représenté généralement comme un événement dans les sciences sociales. Je préfère la définition qu'en donne mon collègue et ami, le géochimiste Jérôme Gaillardet. L'Anthropocène, c'est une question de cinétique, c'est une question de vitesse. Les vitesses ont changé. La cinétique du changement social et environnemental a changé, et à mon avis, c'est quelque chose qui nous permet de nous reprendre un nouveau trait, ce qui a été la grande question de l'histoire sociale, et en particulier la grande question du siècle des Lumières, discutée à la lumière des révolutions, à quelle vitesse changent, mais cette fois-ci non pas simplement les sociétés et les savoirs, mais conjointement des sociétés, des savoirs, des environnements, des climats. La grande nouveauté étant que la vitesse d'accélération de la physicalité et du climat et des cycles biogéochimiques s'est accéléré d'une manière inédite dans l'histoire humaine, ce qui nous oblige à recomposer autrement nos manières d'écrire cette histoire. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.